pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Cindy, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 6 mai et aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de l'Internet. En moins d'un siècle, l'Internet a profondément transformé notre façon de vivre, de communiquer et de travailler. Mais connaissons-nous vraiment son histoire? Comment fonctionne Internet concrètement et comment s'est-il immiscé dans notre quotidien? Pour nous expliquer tout cela, nous allons recevoir Hervé Lecronier, anciennement enseignant-chercheur en informatique et sciences de l'information et de la communication à l'Université de Caen. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons d'abord un tour des infosciences de la semaine. Et on commence avec la mise en orbite du satellite Biomass, mardi dernier par l'Agence spatiale européenne. L'engin a été lancé à bord d'une fusée Vega C depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. Il a été placé en orbite héliosynchrone à 666 km d'altitude. Son but, cartographier et collecter des informations sur les forêts tropicales du monde entier. À l'aide d'un radar à large longueur d'onde, il sera capable de traverser les nuages et les différentes couches forestières. Cela permettra de mesurer avec une précision inédite leur capacité à absorber le dioxyde de carbone et ainsi de mieux comprendre les conséquences de la déforestation sur le climat. Un enjeu de taille dans le contexte du dérèglement climatique. Près de 2/3 des insectes volants ont disparu en 3 ans, c'est ce que révèle une nouvelle étude alarmante sur la population d'insectes au Royaume-Uni. Ces résultats ont été rendus publics par Bugs Matter mercredi dernier. Pour recenser les insectes, les organisateurs de cette recherche participative ont fait appel à presque 10 000 conducteurs britanniques entre 2021 et 2024. Il suffisait aux volontaires de photographier leur plaque d'immatriculation avant et après un voyage à l'aide d'une application dédiée qui se chargeait de comptabiliser les petites bêtes écrasées. Résultat, Bugs Matter a constaté une baisse de 63% de leur nombre entre le début et la fin de l'étude, une conclusion inquiétante qui vient corroborer d'autres études à l'international. Les causes de cette diminution de population chez les insectes sont connues, pesticides, dérèglement climatique et recul des espaces naturels. Ce déclin pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la biodiversité et par ricochet sur la productivité agricole. 100 millions d'euros, c'est la somme que va débloquer la France pour tenter de ramener les chercheurs étrangers sur son territoire. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier lors du lancement de l'initiative Choose Europe for Science. Tout comme ses homologues européens, le président affiche une ambition claire, attirer les scientifiques affectés par les politiques de l'administration Trump. Pour obtenir le soutien de l'État, les projets de ces derniers devront porter sur des thématiques dites prioritaires, telles que l'IA, la santé, le climat ou encore le spatial. L'annonce d'Emmanuel Macron a toutefois été plutôt mal reçue par les syndicats, qui dénoncent une certaine hypocrisie de la part du gouvernement. Selon eux, l'État déclare vouloir soutenir la recherche mais ne s'en donne pas les moyens. Il pointe du doigt la précarité grandissante du secteur. Pour rappel, la loi de finances 2025 a raboté le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche de plus d'1,5 milliard d'euros. Et pour terminer ce flash, coup d'œil dans le rétroviseur, il y a 185 ans, le 6 mai 1840, entrait en circulation le tout premier timbre-poste de l'histoire. Connu sous le nom de Penny Black, en raison de son prix et de sa couleur noire, il a vu le jour en Angleterre et était à l'effigie de la reine Victoria. Mais alors pourquoi ce petit rectangle en papier a-t-il été inventé? Eh bien parce qu'avant sa création, lorsqu'une lettre était envoyée, c'était le destinataire qui devait payer les frais de transport. Ce système était souvent détourné, certains refusaient de payer le facteur à l'arrivée et inventaient des codes pour se faire passer des messages sans ouvrir l'enveloppe. L'introduction du timbre a donc permis d'inverser le paiement en le mettant à la charge de l'expéditeur. Ce système a eu un franc succès puisque 6 mois à peine après leur mise en service, près de 72 millions de timbres avaient été émis. L'invention arrivera en France 9 ans plus tard, en 1849, avec le Cérès noir achetable à 20 centimes.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Connaissons-nous vraiment l'histoire de l'Internet? Baptisé le réseau des réseaux, il rassemble au moins 4,2 milliards d'internautes, soit 55% de la population mondiale. Mais comment a-t-il vu le jour? Comment fonctionne-t-il? Et comment a-t-il évolué de sa création jusqu'à aujourd'hui?
Pour nous aider à comprendre, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Hervé Lecronier. Vous étiez enseignant-chercheur en informatique et sciences de l'information et de la communication à l'Université de Caen. Bonjour.
Bonjour.
Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment est née l'idée d'Internet?
L'idée elle-même, on peut penser que c'est un texte qui a été écrit dans les années 60 à l'époque pour coordonner les radars de l'armée américaine. Mais bon, l'idée a été très vite d'interconnecter des ordinateurs qui commençaient à se développer. Après, on a eu la période de la micro-informatique dans les années 70 avec les hobbyistes qui fabriquaient des mini-ordinateurs jusqu'à donner la naissance de Apple et tout ça. Et à ce moment-là, très vite, les gens se sont dit, mais il faut absolument qu'on puisse interconnecter ces appareils individuels. On a des appareils personnels et si on les interconnecte, on va développer quelque chose qui serait un réseau d'ordinateurs. C'était fait au début par des hobbyistes pour des hobbyistes, par des informaticiens pour des informaticiens. Et assez vite, au début des années 80, l'idée a été qu'en fait, on peut élargir ça à d'autres usagers. On avait un peu le même phénomène en France avec le Minitel, hein. C'est l'idée qu'on va interconnecter des personnes et que ça va favoriser la liberté d'expression, etc., etc. Donc cette idée-là était très prégnante depuis les années 70. En fait, quand on regarde Internet et quand on parle de l'histoire d'Internet, on doit distinguer ce qui est de l'histoire technique et ce qui est de l'histoire sociale ou sociotechnique. On a tendance à se focaliser sur la technique Internet avec une chronologie, des normes, des aspects de ce type-là. Et puis en même temps, il faut regarder les désirs qui portaient ces gens à créer un réseau d'ordinateurs, puis un réseau de personnes à partir de la fin des années 80. C'est en fait, on parle de technologie. Et la technologie, c'est la technique plus la sociologie, je dirais, c'est-à-dire plus le discours autour de ces techniques-là. Et le discours, très vite, a été liberté d'expression, tout le monde peut parler, c'est une chance inouïe, c'est le nouveau papyrus, c'est voilà, on peut se connecter les uns et les autres.
Alors, on reviendra bien sûr à la suite de cette émission sur la question sociale de l'invention d'Internet. Mais on pourrait peut-être déjà revenir sur le fonctionnement d'Internet. L'idée de Paul Baran, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs d'Internet, était de créer un réseau décentralisé. On peut peut-être revenir sur ce que c'est qu'un réseau décentralisé.
Alors ça, c'est quelque chose qui est lié à la culture dont je vous parlais, c'est-à-dire cette idée que si on veut permettre aux gens de s'exprimer, il faut en fait qu'ils aient la gestion de leur propre serveur, du propre moyen d'avoir leur communication. Et au début d'Internet, en fait, les gens avaient un serveur sur leur ordinateur. En fait, c'était quand même des mini-ordinateurs, ce n'était pas des petits ordinateurs personnels. Donc, ce serveur permet effectivement de s'interconnecter et surtout de résister aux pannes. C'est-à-dire, quand un message est envoyé par donc un émetteur, un des usagers du réseau, si tout le long du chemin il va vers son destinataire, il y a un ordinateur en panne, il faut que le système soit capable de trouver un chemin alternatif pour finir par arriver. Et donc c'est tout le principe qui a été fait. Ce qu'on envoie, c'est des datagrammes, c'est-à-dire des courtes séquences, avec en tête l'ordinateur qui émet, l'ordinateur qui reçoit, le contenu. Et puis à la fin, il y a un système de contrôle. Alors, l'ordinateur qui émet, l'ordinateur qui reçoit sont codés par un numéro qu'on appelle le numéro IP, hein, IP pour Internet Protocol. Ça veut dire qu'on a attribué à l'ordinateur, le jour où cet ordinateur est rentré sur Internet, un numéro IP. Et à partir de ce numéro, les autres ordinateurs du réseau vont pouvoir envoyer des messages ou recevoir des messages depuis ce numéro. Bien sûr, les humains, eux, ils ne participent pas de ces numéros. Vous ne connaissez pas les numéros IP, les adresses IP des ordinateurs avec lesquels vous échangez. Vous connaissez leur nom de domaine. www.unicorn.fr, etc. Donc ça, c'est le nom de domaine, et il y a un système qu'on appelle le Domain Name System, le DNS, qui transforme le nom de domaine dans ce fameux adresse IP, ce numéro qui au début était assez court, c'était quatre séquences de 256 bits, donc, et qui aujourd'hui devient beaucoup plus long avec ce qu'on appelle IPv6, de manière à pouvoir attribuer un numéro à tous les ordinateurs qui pourraient se connecter à Internet. Et maintenant, il y en a beaucoup, puisqu'on a même des tas d'objets, des caméras, des... Enfin, il n'y a pas seulement les ordinateurs qui permettent aux humains de se connecter, mais il y a ce qu'on appelle l'Internet des objets. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que pour fédérer Internet, il faut que chaque serveur ait une adresse IP, donc validée, et une capacité pour les autres à repérer, donc il y a une fonction d'annuaire du DNS, à repérer ce numéro et à pouvoir envoyer des messages.
Et alors, ARPANET, c'est souvent présenté comme étant l'ancêtre d'Internet, mais qu'est-ce que c'est ARPANET et qu'est-ce qui le différencie de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui ?
ARPANET, en fait, c'est le nom du réseau qui a été créé dans les années 1970 entre très peu d'ordinateurs à l'origine, hein, deux pour commencer. Puis ensuite, ça s'est développé avec toute une série d'ordinateurs appartenant à des grandes universités, principalement aux États-Unis. Et on dit que la naissance d'Internet, c'est 1984, c'est-à-dire c'est le moment où on va édicter le protocole dit TCP/IP. TCP, c'est Transport Control Protocol, et IP, donc c'est l'adressage Internet. Et à partir de 1984, notamment grâce au logiciel libre qui s'appelle l'Unix de Berkeley, a été créée la pile TCP/IP qui était installée dans les ordinateurs Unix, qui étaient principalement utilisés par les universitaires, notamment les universitaires d'informatique. Et donc, à partir de ce moment-là, il a été possible de connecter un ordinateur à ce fameux réseau qui avait donc ses normes, son système de normes. Ce qui est intéressant, c'est que ce système de normes a été fait de manière ouverte, c'est-à-dire tout informaticien compétent, tout ingénieur réseau compétent pouvait participer à la rédaction des normes qu'on appelle les Requests for Commons, les RFC. Ça continue comme ça, même si c'est de plus en plus compliqué à gérer parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui voudrait intervenir. Et en fait, en réalité, ce sont les grandes entreprises qui ont le plus de temps et de moyens pour maîtriser l'élaboration des normes. Mais dans le principe de base, c'était vraiment que tous les ingénieurs, notamment se regrouper au sein de l'Internet Engineering Task Force, c'est-à-dire le groupe de travail d'ingénierie d'Internet, pouvaient proposer des normes pour dire, ben, par exemple, à un moment donné, il y a une norme qui a été proposée pour dire « je vais envoyer sur le réseau Internet du son en streaming ». Bon, il a bien fallu au début qu'il y ait une norme pour que le son envoyé par un des serveurs puisse être reçu, décompressé et entendu par un des clients de ce serveur. Donc, ça a été une nouvelle norme qui a été discutée, puis bon, qui a été après, qui a évolué, qui est devenue toutes les capacités qu'on a aujourd'hui sur Internet.
Et donc, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais à quel moment Internet s'est démocratisé ? C'était pas commun à l'époque d'avoir un ordinateur particulier dans chaque foyer. À quel moment c'est devenu. À quel moment ça s'est démocratisé comme ça ?
Alors. Non, les débuts d'Internet dans les années 80, c'était les universités, c'était des gros serveurs. Moi, la première fois que je suis rentré sur Internet, c'était en 1993. C'était un terminal de 25 lignes de 80 caractères en lettres orange sur fond noir. Et c'était un terminal qui dépendait de l'ordinateur central de l'université de Caen. Donc du centre de calcul de l'Université de Caen, qui lui était connecté à Internet via une boucle locale qui avait été faite à Caen entre les organismes de recherche, et qui, cette boucle locale elle-même, s'était connectée au réseau Renater, c'est-à-dire le réseau de toutes les universités, qui lui était connecté à un serveur d'échange pour pouvoir accéder à tout le reste de l'Internet. Donc, vous voyez, quand on dit décentralisé, c'est en fait chaque unité était responsable de ce qui se passait chez elle. Le centre de calcul de l'université de Caen était responsable de ce que faisait l'Internet de l'université. Le réseau qui coordonnait tous les centres de recherche de Caen était responsable de ce qui se passait à l'intérieur. Et puis ainsi de suite, Renater était le réseau responsable des universités en France, et etc. etc. Donc on a un système enchâssé où chacun a des responsabilités. Alors la responsabilité en question, principalement à l'époque, c'était la capacité à permettre des accès, à donner un accès à tel ou tel compte, et puis très vite à donner des adresses web. Donc la vraie démocratisation de l'Internet, c'est à partir du moment où on a pu avoir des non-informaticiens ou des gens qui n'étaient pas directement reliés par leur institution, par leur université ou leur centre de recherche. Et ça, alors, je dirais, pour moi, c'est à peu près 93-94, c'est les premiers navigateurs graphiques, hein, qui s'appelaient Mosaïque à l'époque, qui ont rendu facile l'accès à des serveurs d'information. Et après, ça a été le développement de l'Internet grand public à partir du moment où on a eu des sites commerciaux. C'est-à-dire où on a eu Amazon, ça s'est créé en 1995. On a eu le premier site avec de la publicité en 97, etc. Donc on a pu avoir comme ça un accès du grand public. Voilà. Après, il y a une deuxième phase de démocratisation qui est ce qu'on a appelé le Web 2.0. C'est-à-dire dans le premier Web, celui qui était certes grand public, mais les gens devaient fabriquer leur page personnelle. On avait un Internet, un ensemble de pages personnelles. Je dis Internet, c'est le Web en fait, mais on a tendance à assimiler le Web et Internet. Internet, c'est en fait l'infrastructure, c'est le réseau technique qui permet l'existence d'applications, le web étant une des applications, certainement la plus connue parce que c'est celle qui est fédératrice. Voilà. Et donc ce web à l'époque, c'était des pages personnelles qu'on devait programmer avec un langage dit HTML. C'était assez simple. HTML est un langage très simple. C'est des balises pour dire ceci est un titre, ceci est un paragraphe, ceci est une citation, et ainsi de suite. Donc, il y avait une vingtaine de balises à connaître. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a de l'interactivité qui s'est ajoutée. Mais fondamentalement, ça reste un langage très simple. Et donc, il y a eu une espèce d'émulation collective. Les gens, pour faire leur page personnelle, allaient regarder comment était faite la page de quelqu'un d'autre, et puis ils ouvraient le code, ils regardaient comment c'était fait, et puis plus ou moins ils copiaient la même chose, et ils avaient leur propre page personnelle. Mais ça restait quand même une histoire de hobbyiste. Avec le Web 2.0, en fait, on a commencé à proposer aux usagers et aux usagères de l'Internet d'écrire dans des formulaires. C'est un peu ça l'idée. J'écris dans des formulaires et donc je vais pouvoir créer un blog sans avoir jamais à programmer une seule ligne de code. J'ai un formulaire avec un champ où je mets le titre, un champ où je mets le résumé, un autre où je mets mon texte, et roulé jeunesse. Voilà. Donc là, c'est aussi une deuxième forme de démocratisation. C'est la démocratisation de l'écriture. On a eu en 2006 la démocratisation pareil de la vidéo avec l'ouverture de YouTube. Ils se sont créés en 2005, mais en fait ça a commencé vraiment à exploser à partir de 2006, où les gens ont pu télécharger des vidéos. Et on a commencé à avoir, dès le début, des gens face caméra qui dansaient sur leur musique préférée ou qui parlaient face caméra, etc. Donc le style YouTube a existé en fait presque dès le début. Et voilà, donc ça c'est quand même un élément important parce que les gens s'expriment souvent plus aisément avec de la vidéo qu'avec du texte écrit. Un des éléments importants de ce passage, donc du début des années 2000, c'est la création de MySpace. MySpace était un endroit où les gens pouvaient mettre de la musique, télécharger de la musique et la faire écouter. Donc ça a été vraiment occupé par beaucoup de musiciens. Et donc il y avait la possibilité de configurer son MySpace, comme on a pu avoir aussi d'autres formes de configuration où on pouvait choisir sa couleur, son style, sa manière d'être vu par les autres usagers. Et donc renforcer à nouveau là aussi l'originalité de chaque personne qui s'intégrait malgré tout dans un système de formulaire.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Nous sommes avec Hervé Lecrunier pour parler de l'histoire d'Internet. Et on en parlait tout à l'heure, Internet a vu le jour à la fin des années 60 aux États-Unis en plein mouvement hippie. Alors qu'est-ce qu'incarnait Internet dans ce contexte politique et culturel ?
Oui, alors déjà, le mouvement hippie, c'est quelque chose d'assez complexe. On a une image un peu fleur dans les cheveux et musique et LSD. Pour ce mouvement, il y avait une espèce d'idée que la technologie allait nous permettre de changer le monde. La technologie chimique, par exemple avec le LSD, mais aussi la technologie informatique. Et dès le début des années 70, la Bible un peu du mouvement hippie, qui s'appelait le Walhurst Catalogue, avait des pages entières sur qu'est-ce que la cybernétique, sur les calculettes de Hewlett-Packard, et puis très vite sur ce qu'on pouvait faire avec le développement des technologies de connexion, de communication, principalement le téléphone avec des trucs pirates pour pirater le réseau téléphonique. Enfin bon, il y avait toute une idée que en interconnectant les gens, en les faisant être ensemble, le be-in qui était à la mode, en les faisant être ensemble, soit avec le LSD, soit très vite avec les réseaux informatiques, on allait pouvoir finir avec le monde rigide qui était celui des années 60, du monde militaro-industriel, etc. Bon, l'histoire a montré par ailleurs que c'était un mythe, mais disons que ça existait dans ce mouvement-là. Si l'on en croit Fred Turner, un des représentants de cette histoire-là, c'est Stuart Brand, qui n'a jamais rien fait pour Internet, au sens où il n'a pas créé une ligne de code, mais qui par contre était un passeur absolument extraordinaire dans la fin des années 70 et début des années 80, et où il a accompagné en fait la création de communautés d'usagers, où il a mis en place des serveurs, notamment The Well, qui permettaient à des groupes d'usagers ayant un thème commun de travailler ensemble, ce qui était typiquement une logique du mouvement hippie. En fait, comment cette idéologie-là est restée ancrée, en fait, insérée culturellement dans l'Internet, ça a été principalement autour de la logique de la liberté d'expression, mais aussi celle-ci de la constitution de communauté. Ce qui fait que même quand on a un Internet hyper commercial comme celui qu'on connaît actuellement, les gens continuent de vous parler de la communauté Facebook, de la communauté TikTok, de la communauté de n'importe quel site marchand. Enfin, tout le monde est communautaire. Voilà. Et ça, c'est un résidu là aussi des origines liées au mouvement hippie. Et on voit bien derrière que c'était certes contestataire, mais ça manquait un peu d'une colonne vertébrale. D'ailleurs, il y avait en fait deux mouvements hippies. Il y avait ce mouvement contre-culturel et puis ce qu'on a appelé la nouvelle gauche là-bas, le New Left. Les deux vivaient dans des communautés, mais ce n'était pas tout à fait les mêmes. Les contre-culturels allaient plutôt dans des communautés à la campagne. 700 000 jeunes, quand même, qui sont partis vivre en communauté à la fin des années 60, début des années 70. Et puis les autres vivaient en communauté, mais dans les villes. Voilà, avaient des projets plus politiques derrière.
Et alors, à quel moment sont apparues les premières dérives d'Internet ?
Alors, c'est compliqué. C'est compliqué de dire parce que c'est quoi une dérive ? En fait, la première, c'était en 76. Il y a quelqu'un qui s'est servi de la liste de toutes les adresses e-mail existantes pour envoyer un mail à toutes les adresses e-mail existantes. À l'époque, il devait y en avoir 5 ou 600. Et c'était donc le premier spam. Donc, dès le début, il y a des gens qui se sont dit, on peut se servir de ça pour déverser une information qui n'était pas sollicitée par celui ou celle qui allait devoir la lire. Les dérives actuelles, elles sont principalement liées à la concentration en quelques monopoles et au rôle central de la publicité. Pour vous dire, Google, quand il s'est créé, le premier article écrit par Sergey Brin a été un article pour expliquer qu'il ne fallait surtout pas mettre de la publicité dans un moteur de recherche parce que si on mettait de la publicité, on allait influencer les résultats du moteur de recherche, qui n'allait donc plus être efficace au mieux par rapport aux besoins de recherche. Quand on compare à Google actuellement, effectivement, ça prête à sourire. Voilà. Donc, au début, Google, quand il est apparu, n'avait pas de publicité, c'était juste un bandeau dans lequel on pouvait écrire et qu'on pouvait même installer sur son propre site web. C'est-à-dire Google, c'était des copains du web alternatif. Ça, c'est la publicité. La publicité était interdite au début d'Internet. Ça n'a été que à partir de 1994-95 que on a accepté que, pas dans tout Internet, mais dans tout ce qui était .com, commercial, il pouvait y avoir de la publicité. Qui dit publicité dit quelque part le besoin de capter du temps de cerveau disponible, c'est-à-dire de capter l'utilisateur pour pouvoir lui présenter la publicité. Et très vite, une fois qu'on l'a capté, il faut le garder pour pouvoir lui présenter encore plus de publicité. Donc on a à partir de ce moment-là une incitation des grands sites à enfermer l'usager, à faire qu'il ne se balade pas de site en site, comme c'était le cas au début du premier web dont je vous parlais avec les pages personnelles, ou même au début du web 2.0, c'est-à-dire quand on avait plusieurs blogs et les gens allaient de blog en blog. Mais à partir du moment où on a eu des systèmes qui concentraient les choses et qui pouvaient injecter de la publicité, donc quelque part gagner de l'argent auprès d'un tiers, qui est le publicitaire, l'annonceur, à partir de ce moment-là, les incitations à garder le public sont devenues très très fortes. Et le meilleur moyen pour garder le public, c'est de grossir, c'est de racheter ceux qui pourraient faire de l'ombre. Donc quand Facebook s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ses usagers qui partent pour aller sur WhatsApp, et ben ils rachètent WhatsApp. Voilà. Donc on a eu tout ce phénomène de concentration qui a fait en sorte quelque part que on voulait capter les gens et donc leur propos. Alors comment on capte les gens? Ça aussi, on capte pas les gens contre leur gré. C'est ça qui est compliqué. Il faut produire un spectacle qui va à la fois intéresser les gens et intéresser l'annonceur publicitaire. Donc c'est un espèce d'équilibre à tenir. Voilà. Donc le format court, par exemple, en se renouvelant tout le temps, fait que on est quelque part plus facilement capté parce que bah voilà, on va scroller. Ça fait du doom scrolling. Et ça, bon, bah, voilà. Le gars qui a inventé ça l'a regretté ensuite. Mais au moment où il l'a inventé, c'était super de dire de pouvoir sans avoir une page sans fin. Mais bon, voilà, c'est. Et Sam Zuckerman, après, a dit, bah oui, j'avais pas prévu que ça deviendrait ce système qui permet aux gens d'être accros parce que on voit des formats courts, des formats courts, des formats courts. On se dit toujours que le format court suivant sera plus intéressant que celui qu'on regarde qui nous casse les pieds, en fait. Voilà. Mais on attend toujours quelque chose.
Oui, vous parlez de l'addiction aux écrans, mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de débats sur ce qui est de l'ordre de la désinformation ou de la protection des mineurs face aux dérives pornographiques sur Internet. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aujourd'hui réguler ce réseau ou le modérer les
En
contenus?
fait, le problème global, c'est que c'est un réseau qui est ouvert à tout le monde. Donc, c'est votre ordinateur qui se connecte et le réseau ne sait pas quel âge vous avez. Le réseau ne sait pas de quel pays vous venez. Enfin, il y a toute une espèce d'extraterritorialité sur Internet. Et il y a en plus le fait que les gens ont l'impression d'être masqués, que c'est pas eux, puisque c'est une machine. Vous voyez? Et donc, à partir de ce moment-là, c'est très difficile. En fait, la désinformation, elle a plusieurs aspects. C'est qu'elle peut aussi être lancée par des puissances géopolitiques. Hein, donc, on parle beaucoup aujourd'hui de l'activité des hackers russes sur le réseau. Donc, comment on désinforme? J'irais dire, moi j'ai vu la naissance un peu de ces systèmes de désinformation, c'était on reçoit un message qui nous plaît, on se dit, ah ouais, ça, voilà, ça prouve bien ce que je pense, ça conforte mon opinion. Et donc je vais le redistribuer à d'autres parce que c'est mon opinion. Et on n'a pas pris l'habitude de vérifier si justement on ne se faisait pas manipuler par quelqu'un qui est proposé un message qui était proche de vos opinions, mais qui était fondé sur rien, sur des fake news ou sur de la volonté de manipulation.
Est-ce que le simple fait de réguler Internet ne va pas à l'encontre de sa nature en tant que réseau décentralisé?
En fait, il a été prévu pour ne pas être régulé, justement. C'était un de ces mythes fondateurs de l'Internet. C'était personne ne pourra mettre la main sur Internet et surtout pas les États. Donc, on est dans une situation où c'est inscrit dans le code, en fait, ça. On peut penser que la capacité d'Internet à continuer quoi qu'il arrive, c'est une capacité qui est prévue, en fait, par le code à l'origine pour pouvoir développer la liberté d'expression. Donc, c'est compliqué. Par contre, la liberté d'expression, ça ne veut pas dire, ça n'a jamais voulu dire, j'ai le droit de dire n'importe quoi. On n'a pas le droit, dans le cadre de la liberté d'expression, de faire de la diffamation. On n'a pas le droit d'appeler à tuer son voisin. On n'a pas le droit de faire du négationnisme de crimes contre l'humanité. Et ainsi de suite. Enfin, il y a toute une série de règles. Et il y a une autre règle de la liberté d'expression, qui est la loi de 1882 sur la liberté de la presse, qui est de dire il faut qu'il y ait une personne responsable de ce qui s'exprime. Or, c'est compliqué de rendre 50 millions de personnes responsables de ce qu'ils écrivent. Je dis 50 millions parce que je pensais aux Français, mais en fait, beaucoup plus largement, les 5 milliards d'internautes, c'est difficile de les mettre individuellement responsables de ce qu'ils écrivent. Donc, souvent, on délègue cette responsabilité aux services qui leur permettent de s'exprimer. Donc, en fait, aux médias sociaux actuellement. Voilà. Mais c'est là qu'il y a un danger, c'est-à-dire à partir du moment où on a dit aux médias sociaux, vous n'avez pas besoin de surveiller ce qui est dit et vous n'êtes pas responsable de ce que dit une personne sur votre média social, bah là ça devient beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a l'impossibilité d'accéder directement à la personne qui dit des choses qui sont contraires à la liberté d'expression, c'est-à-dire contraires à l'existence d'une société, contraires aux règles de bienséance qui font qu'une société continue d'exister. On ne peut pas les prendre eux, les rendre responsables eux, et le serveur, lui, est déclaré, c'est la loi DMCA aux États-Unis qui date de 1996, il est déclaré en fait irresponsable de ce qui se dit sur son réseau. Donc, on est un peu dans une situation qui est très difficile parce que si on bloque beaucoup plus, on va atteindre aux libertés individuelles, c'est-à-dire à la liberté d'expression, au droit d'avoir des opinions, au droit de les exprimer, etc., etc. Donc toute idée qu'on pourrait faire une régulation à la hache est une idée saugrenue qui ne correspond pas à la réalité et de ce qu'est l'Internet, et la réalité de ce qu'est devenu le monde social du XXIe siècle. Donc, il va falloir trouver des responsabilités. Pour moi, l'élément central de responsabilité, c'est briser les monopoles. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'est pas possible que des gens comme Google, Meta ou Amazon couvrent l'ensemble des activités et soient devenus de tels béhémots, de tels monstres qu'ils peuvent décider d'eux-mêmes, par eux-mêmes, de ce qu'ils ont à faire. L'auteur Cory Doctorow, dans son livre Le rapt d'Internet qui vient de paraître, dit qu'il faut provoquer l'interopérabilité, c'est-à-dire faire que un tiers, un informaticien un peu rusé, va pouvoir se servir créer une nouvelle application qui irait se servir dans les informations de ces gros monopoles. Voilà. Donc ça s'appelle l'interopérabilité qui fait que par exemple on pourrait quitter WhatsApp même si tous vos amis restent sur WhatsApp et aller sur Signal et interopérer, c'est-à-dire continuer à pouvoir parler avec vos amis qui sont restés sur WhatsApp. Un peu comme on peut continuer à parler avec les gens qui sont restés sur Gmail même quand on a quitté Gmail.
Et alors pour terminer, peut-être une question un peu plus large. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que l'Internet a encore de l'avenir ?
Ah, c'est sûr, oui. Je veux dire, la période du Covid a été très significative à ce titre-là. Imaginez un instant qu'on n'ait pas eu Internet au moment du Covid. Un confinement, isolé, plus moyen de se communiquer. Quand on voit déjà les dégâts que le Covid a provoqué notamment dans la jeunesse, les problèmes mentaux et psychologiques qui se sont développés à une vitesse qu'on ne connaissait pas auparavant, imaginez qu'il n'y ait eu plus aucun moyen de se connecter. Donc je crois que les humains continueront, quoi qu'il arrive, à vouloir se servir de ce réseau pour parler entre eux, pour discuter, échanger, écrire, etc. Accessoirement, l'Internet, c'est le web là dont je parle, les médias sociaux, mais c'est aussi une infrastructure technique qui permet à énormément d'activités, depuis le pilotage des avions, des bateaux, la surveillance des trafics, toute une série d'activités qui utilisent l'Internet, notamment l'Internet des objets avec le plus grand nombre de capteurs. Donc oui, l'Internet persistera. L'Internet qu'on connaît aujourd'hui risque de changer parce que tôt ou tard, les gouvernements vont se rendre compte qu'on ne peut pas déléguer un tel pouvoir aux entreprises des médias sociaux sans leur donner en face des responsabilités. Alors pour l'instant, ils ont un grand pouvoir et ils sont irresponsables devant la loi. À part Mark Zuckerberg qui va s'excuser à échéance régulière devant le Congrès des États-Unis, il n'y a jamais eu de conséquences à ça. Alors c'est en train de changer. C'est en train de changer. Il y a à l'échelle européenne des lois comme le Digital Market Act ou le Digital Service Act qui commencent à mettre les points sur les i, à dire maintenant vous ne pouvez pas être totalement irresponsable. Je pense que c'est une bonne voie, il faut continuer, il faut aller plus loin, il faut rendre responsable. Après, il y a une deuxième voie, comme toujours, c'est l'éducation. C'est-à-dire faire en sorte que de plus en plus de gens comprennent le fonctionnement de l'Internet et donc ne soient pas dupes, ne soient pas ceux qui vont relayer des fausses informations. En ayant appris à regarder quelques règles de base pour savoir si l'information est crédible ou n'est pas crédible.
Merci beaucoup Hervé Lecronier d'être venu à notre micro. On le rappelle, vous étiez enseignant-chercheur en informatique et sciences de l'information et de la communication à l'Université de Caen. Bonne journée à vous.
Merci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Demain, rendez-vous à 14h au Dôme pour l'atelier balade sauvage de ma rue. En vous promenant sur la presqu'île de Caen, vous apprendrez à identifier les différentes espèces végétales peuplant la ville, l'occasion d'en apprendre plus sur la biodiversité urbaine tout en contribuant à un projet de recherche participative. C'est gratuit et ouvert à tous dès 12 ans, vous pouvez vous inscrire depuis le site du Dôme. Mercredi également à 18h, les archives départementales du Calvados vous proposent une conférence sur les élections municipales de 1945, premières élections après la libération, premier vote pour les femmes. Cette double intervention vous est présentée par Emmanuel Thiébaud et Jessica Huyghe dans le cadre de la 88e anniversaire de la libération. C'est gratuit, rendez-vous aux archives départementales du Calvados demain à 18h. Et enfin, lundi 12 mai, l'Institut Canet de Recherche Juridique vous invite pour une conférence recherche actualité des réseaux sociaux avec Valère Ndior et Emmanuel Netter, professeurs en droit. Ils vous présenteront leur ouvrage « État et réseaux sociaux » dans lequel ils analysent les relations entre plateformes numériques et pouvoirs publics en France et à l'international. Cette conférence est destinée à un large public. Elle se tiendra donc lundi prochain à 17h dans la salle des Actes, bâtiment D du Campus 1. C'est bien entendu gratuit, mais pensez à vous inscrire en ligne avant le dimanche 11 mai. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm. Merci à Émile à la technique. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.